cet après-midi, c'est le retour des vacances, hein. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Les trois témoins ». Et avant de rentrer dans le concret de ce que sont ces trois témoins, j'ai besoin de vous partager deux notions. Deux notions importantes pour comprendre ce que je vais partager par la suite. La première notion, elle est en lien avec une ordonnance que Dieu a laissé à son peuple et qui a trouvé sa pratique au sein de l'Église, mais au sein du peuple d'Israël. Cette ordonnance, vous la trouvez dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, et elle est en lien avec la gestion des problématiques, des conflits, des faux témoignages, du vol, des meurtres. Et l'idée qui sous-tend derrière, c'est le fait qu'à un moment donné, on ne peut pas s'appuyer que sur un seul témoignage, il faut plusieurs témoignages pour obtenir la véracité des faits. Et c'est ce que dit Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour contester un crime ou un péché ou une fausse affirmation ou mettez ce que vous voulez derrière, quel qu'il soit en fait. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois. Cette affirmation, vous la retrouvez après dans Deutéronome, chapitre 17, verset 6. Elle est dans la même idée, c'est-à-dire qu'un seul témoin ne suffit pas, il en faut au moins deux, voire trois, c'est mieux. Et c'est tellement vrai, ce passage, cette ordonnance, c'est tellement vrai que quelque part, dans le Nouveau Testament, on la retrouve aussi. Et certainement que dans les conflits, dans la gestion des problématiques de l'Église, parce qu'une Église est vivante. Et quand une église vit, bah, il peut y avoir des temps de difficultés aussi. Et quand l'église vivait des temps de difficultés, Paul avait mis en place un process en lien avec les Écritures que vous retrouvez dans 1 Timothée chapitre 5, verset 19. Ça fait partie des consignes et des enseignements que Paul va donner à son disciple. Timothée est son disciple, il prend en charge une nouvelle église et Paul lui donne des conseils pour être un bon pasteur. Et Paul dit à Timothée, voilà, écoute, Timothée, si tu as des problèmes avec tes anciens, s'il y a des soucis avec les anciens, eh ben, que ça ne soit pas qu'une accusation vis-à-vis de lui, ne soit pas le fait d'une seule accusation. Mais que le texte dit, ne reçoit pas point l'accusation contre un frère, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois. Et certainement que dans l'Église primitive, cette pratique-là, qui est issu d'un enseignement de l'Ancien Testament, de la loi mosaïque, se retrouvait et était mise en place dans l'Église. Alors maintenant que je vous ai dit ça, on va faire un peu de cloisonnement. Vous mettez ça d'un côté, vous ne l'oubliez pas, et je vais vous mettre dans un autre élément. Et cet autre élément se trouve dans l'épître de Jean, dans la première épître de Jean. Et là, je ne parle pas des évangiles, attention. Je parle des épîtres, et là, l'une des premières épîtres de Jean fait référence à un contexte sous-jacent qui ne transparaît pas sur nos premières lectures. Et Jean, dans ses épîtres, confronte un problème profond. L'Église a vécu différentes phases, différentes oppositions, et l'une des premières oppositions a été de la persécution. Mais plus tard, au fur et à mesure que l'Église va prendre place, va s'élargir, va grandir, un nouveau problème va germer et ça va être tous les problèmes de fausse doctrine, d'hérésie. Et Jean est confronté à l'hérésie. En particulier le gnosticisme, je vais y arriver, mais qui était une pratique qui a déformé la théologie, en particulier ce qui est en lien avec la personne de Jésus. Et ça s'appelle le gnostique, voilà, je vais y arriver. Nos barbares grecs. Hein. Gnostique veut dire connaissance. Et cette hérésie de l'époque que Jean a rencontrée avait pour base, c'était un ensemble de chrétiens de prime abord qui était intellectuel, était arrivé à réfléchir et à dériver progressivement autour de fausses doctrines, d'éléments qui ont dénaturé même la personne de Jésus. Et quand Jean est confronté à ça, il prend position et il écrit la première épître de Jean. C'est dans ce contexte-là que Jean va l'écrire. Et cette hérésie avait pour but de dénaturer la nature de Jésus. Entre guillemets, ils en étaient arrivés à faire une distinction entre Christ et Jésus. Alors, pourrais vous renvoyer vers des documents par rapport à cette hérésie, parce que, quelque part, mes frères et sœurs, je suis convaincu qu'on va être de plus en plus confrontés à des hérésies. Et je vais approfondir ça ce matin, et vous allez voir de quelle façon, mais dans l'idée, c'est que l'épître de Jean a été écrite pour bétonner le statut de Jésus, pour dire qui est Jésus. Et il commence au travers d'un verset qui est très parlant, il s'affiche de suite dans 1 Jean chapitre 2, « Je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge, ne vient de la vérité. » Verset 22, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le... » Jean affirme une vérité. Et c'est tout le problème de l'hérésie que Jean vivait à son époque. Certaines églises étaient en train de détourner la nature de Jésus, en train de dissocier la personne de Jésus et la personne de Christ. Ça paraît aberrant pour nous, mais à l'époque de Jean, il y avait cette hérésie qui courait, qui amenait à dire « Jésus était Jésus, le Christ ». Et Jean dit « Non, 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 ils ne font qu'un. Jésus est le Christ ». Et voilà ce que fait Jean. Voici ce que je fais Jean. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Amen. Et celui qui fait ça, qu'est-ce que dit Jean? C'est un antichrist. Il le dit. Qui nie le Père et le Fils? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Moi, j'aime beaucoup Jean. Souvent, on a forcément des images particulières de l'apôtre Jean. On a l'image de cette... Parce que souvent, ces épîtres sont dites les épîtres de l'amour. Et souvent, on associe Jean aux disciples que Jésus aimait. Mais très honnêtement, quand on connaît Jean, il ne faudrait pas oublier que c'était aussi un fils du tonnerre. Ça vous parle, hein? Un fils de Zébédée. Et quand on lit ces affirmations, on a l'impression que Jean nous dit « Hé, vous ne touchez pas à Jésus, là. Sinon, vous êtes des antichrists. » Jean est comme ça. C'est un fils de Zébédée. Et dans sa première partie, il affirme que Jésus est Christ. Maintenant, il dit une autre vérité qui est aussi fondamentale. Il dit et il affirme, mais Jean va plus loin. Maintenant, il explique pourquoi. Et dans le passage suivant, Jean va rentrer dans une argumentation un peu particulière. Et maintenant, reprenez ce que je vous ai dit au départ au sujet de 2 et 3 témoignages. Vous vous rappelez? Suivez. On va faire le joint. Jean, dans la suite de son épître, au chapitre 5 et en particulier au verset 5, Jean va rentrer dans une argumentation pour justifier que Jésus est le Christ. Et c'est tellement beau parce que dans les mots de Jean, dans l'écriture de Jean, Jean insiste tellement qu'il va mettre en place une formule. Et pour nous, c'est tellement basique, mais il va dire Jésus-Christ. Oui ? Moi, ça, je trouve ça fabuleux parce que c'est Jean-là qui pose ça. Parce que souvent, on a dit Jésus, et pour beaucoup, c'était le Fils de Dieu. Mais Jean-là, dans son épître, il dit Jésus. C'est pas que Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est le Messie. Vous voyez, vous faites le lien là ? Jean rentre dans une argumentation extraordinaire pour justifier que Jésus est le Christ. S'il l'a affirmé, maintenant il va le prouver. Et comment le prouver, si ce n'est en faisant appel à des témoins? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Sur la base de 2 ou 3 témoins. Jean reprend l'Ancien Testament et il le fait à sa sauce. Il dit maintenant, sur la base de 3 témoignages, je vais vous prouver que Jésus est bien le Christ. C'est bon? Sauf que Jean va aller chercher des témoins un peu particuliers. Et vous allez lire avec moi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus. Ok, vous me suivez. Et qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend très témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et notez bien ce qu'il est dit, verset 7. « Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. » Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu lui est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils Jésus-Christ. Jean va argumenter que Jésus est Christ sur la base de trois témoignages qui sont l'eau, le sang et l'esprit. Alors ça pourrait paraître étrange de se dire, bon, t'aurais pu choisir d'autres témoins quand même. Mais Jean a une connaissance des Écritures particulière. Il ne va pas prendre ces trois éléments au hasard parce que ces trois éléments sont des repères, sont associés systématiquement à l'œuvre de rédemption, de salut que Dieu a entrepris pour sauver l'humanité. Systématiquement dans les Écritures, quand Dieu lance un projet pour sauver l'humanité, vous allez trouver l'eau et... Ok, vous me suivez, génial. L'une des premières œuvres que Dieu a entrepris de salut, c'est lorsque Dieu va sauver Noé. Et je vais argumenter ça parce que c'est tellement intéressant pour ceux qui aiment les Écritures. Dans l'œuvre que Dieu va vivre et va faire mener à Noé, souvent on a une idée vraiment très, très particulière de ce qui s'est passé lors du déluge, mais je m'étais arrêté il n'y a pas si longtemps que ça sur l'idée que Dieu n'a pas détruit la terre quand il a envoyé le déluge, il a sauvé l'humanité. Et je pourrais en parler, je n'ai pas le temps d'en discuter, j'en ai parlé, j'en ai fait toute une étude. Et clairement, quand Dieu envoie le déluge, il n'est pas en train de détruire l'humanité, il est en train de la sauver en fait. Et quand Dieu sauve l'humanité, vous avez les trois témoins. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, évidemment, c'est clair, il va purifier la terre avec l'eau. C'est l'idée du déluge. Mais que fait Noé une fois qu'il sort de l'arche? Il fait un sacrifice. Et que fait Dieu à la suite de ce sacrifice? Il prend son arc. Il y a toute une symbolique extraordinaire. L'arc, c'est l'image de la guerre, c'est ce que Dieu a fait fondre sur la terre. C'est l'idée que Dieu est parti en guerre pour purifier la terre. Il prend son arc et il dit « Je pose mon arc dans la nuée ». Et nous voyons un bel arc-en-ciel apparaître. Et j'aime tous les termes employés parce qu'il est fait question de nuée, et la nuée est étroitement liée à qui est la personne du Saint-Esprit et le fait que Dieu est esprit. Ok ? L'eau, le sang et l'esprit. Prenez la sortie d'Égypte. Extraordinaire la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte commence à la Pâque. Lorsque Dieu demande à son peuple de mettre sur ses linteaux du sang, vous me suivez. Que se passe-t-il? Ils sortent d'Égypte, ils passent par la mer Rouge, l'eau. Et lorsqu'ils commencent à cheminer dans le désert, vous avez la nuée qui vient et qui accompagne le peuple dans le désert. L'eau, le sang et l'esprit. Le tabernacle. Le tabernacle est une œuvre extraordinaire de Dieu. Si Dieu a sauvé, encore, vous voyez l'œuvre salvatrice de Dieu au travers de la sortie d'Égypte, le tabernacle était l'instrument pour le peuple pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais il est aussi synonyme de salut et il est une perspective des choses à venir. Et quand on parle du tabernacle, je me suis permis de vous présenter ceci, image. Lorsque le sacrificateur, lorsque le peuple venait, l'une des premières choses qu'il avait en vue, c'était l'autel des sacrifices, l'holocauste, donc le... Vous me suivez? Le deuxième élément qui se trouvait sur le chemin du sacrificateur pour aller dans le lieu très saint, c'était cette cuve d'airain énorme remplie. Et la troisième chose que le sacrificateur avait à faire, c'était rentrer dans le saint, puis dans le très très saint, dans le lieu très saint où se trouvait la nuée, où Dieu attendait ses serviteurs. Amen. Et vous avez la même image lorsque vous parlez du temple. Maintenant, venons à l'argument de Jean concernant Jésus. Quand on regarde Jésus, et c'est l'argument, les témoins que Jean sort, il dit, mais quand Dieu entreprend une œuvre salvatrice, il y a toujours trois témoins, l'eau, le sang, l'esprit. Et il met en avant que dans la vie de Jésus, nous retrouvons constamment l'eau, le sang et l'esprit. Jésus va passer par les eaux du baptême, l'eau. Il va s'offrir sur la croix, le sang. Et il est celui qui va envoyer, souffler sur ses disciples le Saint-Esprit. Amen. Notez des détails dans la vie de Jésus qui sont juste extraordinaires. Quand l'un des soldats, et c'est dans Jean chapitre 19, verset 34, quand l'un des soldats vient avec cette lance percer le flanc de Jésus, que trouvons-nous ? Du sang, de l'eau. Et forcément, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui suit, puisqu'on est 40 jours après, une cinquantaine de jours après. Le Saint-Esprit va fondre sur eux et tout est lié. Quand Jésus transforme de l'eau en vin, quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle », nous voyons dans la vie de Jésus les témoins d'une œuvre de salut. Et Jean argumente de la façon suivante. Vous ne pouvez pas dissocier Jésus de l'œuvre du salut. Vous ne pouvez pas dissocier Jésus du Christ. Toute la vie de Jésus est remplie du sang, de l'eau et de l'esprit. Aussi, Jésus est Christ. Amen. Ok. Maintenant, j'en viens à mon point. Vous allez me dire tout ça pour en arriver là ? Oui. Jean n'en reste pas là. Et permettez-moi de reprendre le texte de 1 Jean chapitre 5 et on va le reprendre complètement cette fois-ci. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est bien sûr le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ok ? Car il y en a trois qui rendent témoignage. Les trois rendent témoignage. Et l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Et c'est extraordinaire. On poursuit. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Heureusement. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Verset 10. Un Jean chapitre 5, verset 10. Celui donc qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Jean nous invite à penser une chose importante. Dans la vie de Jésus, le salut est marqué par la présence de l'eau, du sang, et de l'esprit. Là, c'est bon, on y arrive. Mais qu'est-ce que dit Jean ? Il dit, ce témoignage-là, l'eau, le sang et l'esprit, doit être aussi présent dans ceux qui croient. Vous me suivez toujours ? Aussi dans nos vies, mes frères et sœurs. Il doit exister l'eau, le sang, et l'esprit. Et c'est là que les choses sont importantes pour nous, parce que spirituellement, il faut bien réaliser que l'eau ne va pas sans le sang. C'est ce que Jean dit juste avant. Et tout est interlié, parce que quand il y a l'eau, il y a le sang, aussi il y a l'esprit. On ne peut pas dissocier les uns des autres, on ne peut pas faire sans l'un ni l'autre. Les trois sont liés. Les trois ne font entre autres qu'un, et ça fait référence sans doute à la Trinité, bien sûr. Mais l'idée sous-jacente, et c'est ce que nous dit Jean, si nous sommes et nous croyons en Dieu, le témoignage qui confirme que Jésus est sauvé doit être aussi présent en nous. Que Jésus nous a sauvés, il doit être en nous. Aussi le feu, aussi pardon, l'esprit, l'eau et le sang doit être en nous. Ok. Que dit Jean dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 5 ? À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire
et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est le même gars qui a écrit les deux passages. Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ? Première des choses, il nous dit, si nous sommes sauvés, si nous croyons en Jésus, il doit se manifester en nous les trois témoins, l'eau, le sang et l'esprit. D'un autre côté, Jésus dit, Jean dit une autre vérité, c'est que nous sommes des sacrificateurs. Alors, reprenons le fait que nous sommes des sacrificateurs et je voudrais vous inviter à reprendre avec moi le temple, ou en tout cas le tabernacle. Lorsque les tabernacles étaient établis, les prêtres et les sacrificateurs rentraient et la première des choses qu'ils voyaient, c'était l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est le sang. Mes frères, mes sœurs, nous ne venons à Jésus que par l'œuvre de la croix. Et nous venons au salut que par l'œuvre de la croix. Rien ne peut nous conduire à Dieu si ce n'est le sacrifice de Jésus. Aussi, le prêtre et les sacrificateurs montaient, appliquaient le travail qui devait être fait et les holocaustes étaient établis. Et bien souvent, ce qui se passait, c'est que les sacrificateurs étaient couverts de cendres, étaient couverts de charbon, étaient couverts de suie, étaient couverts de sang. Alors que faisaient les sacrificateurs ? Une fois leur service accompli, ils descendaient. Et alors qu'ils descendaient et qu'ils avançaient, je m'avançais avec eux, ils tombaient sur la cuve d'airain. Et vous retrouvez cette cuve d'airain dans le temple, c'est ce qu'on appelle la mer. Ça vous parle ? C'était une cuve énorme sur laquelle il y avait des bœufs, 12 bœufs, il me semble, c'était ces 12 bœufs. Et sur ces 12 bœufs d'airain, on avait mis cette énorme bassine en airain. Et là, une fois que le sacrificateur redescendant des sacrifices, une fois qu'il était couvert de sang dessus, il arrivait au niveau de la mer ou au niveau de cette cuve d'airain. Et cette cuve d'airain était remplie d'eau et servait un objectif à ce que le sacrificateur se lave. Il enlevait le sang, il enlevait la suie, il enlevait tout ce qui est le mélange même de sang et de suie, bien souvent c'était comme ça. Et il se débarbouillait, se lavait les mains, il se lavait le visage, il se lavait les pieds, afin de pouvoir rentrer dans le saint. Parce que le texte dit que si le sacrificateur ne le faisait pas, il mourait. Ok ? Oh, des boucs, des bœufs. On n'a plus besoin de sacrifice, parce que Jésus est notre sacrifice. Je vais le préciser. Jésus, en effet, a accompli le sacrifice. Mais ça ne nous enlève pas, mes frères et sœurs. Et ça ne nous dégage pas de l'idée de veiller à notre âme. Il y a deux choses qui sont distinctes, parce que la croix a vaincu le péché, mais elle a vaincu aussi la puissance du péché en nous. Et si la croix et le sacrifice et les holocaustes correspondent au pardon des péchés, la cuve d'airain avait pour vocation et est une image spirituelle de l'œuvre que Dieu entreprend aussi en nous, de nous laver. Et les Écritures sont aussi très pertinentes là-dessus parce qu'elles nous invitent à avoir cette réflexion sur nous-mêmes, à nous examiner nous-mêmes lorsque nous prenons le vin, à vérifier si dans notre cœur, l'ennemi n'y a pas fait une tâche. Ça, c'est quand on est enfant. Mais parlons et disons les choses telles qu'elles sont. Veillons à ce que nous restions propres. Et c'est la cuve d'airain. C'était son rôle. Lorsque le sacrificateur descendait, il pouvait à ce moment-là rentrer dans le Saint des Saints. Et là, dans le Saint des Saints, le principal, le sacrificateur, celui qui avait toute la haute autorité, pouvait rentrer dans le Saint des Saints et contempler la nuée et contempler l'Arche de l'Alliance. Il était en présence de son Dieu. Maintenant, regardez ce que dit le texte. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Et il précise, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Vous savez, quand Jésus a été persécuté, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le soldat a percé le côté de Jésus, c'est du sang et de l'eau qui sont sortis. Et nous retrouvons ces symboles. Et il y a une
C'est interconnecté, ce n'est pas dissociable. Et c'est ce que dit Jean. On ne peut pas juste vivre la croix sans vivre la sanctification. Et on ne peut pas vivre la sanctification sans vivre la croix. Et par moments, on pourrait être et faire des raccourcis spirituels dans notre compréhension de ce qu'est la vie chrétienne. On peut devenir aujourd'hui, j'ai vu ça, on peut devenir chrétien sans vivre forcément la croix. Et là, vous vous dites, mais comment c'est possible? Et puis en même temps, il y en a certains qui prônent et qui posent une position un peu particulière. Ah ben moi, je peux vivre la croix sans avoir à vivre la sanctification. Et Jean combat cette idée-là. Jean combat l'idée que quelque part, si nous croyons en Christ, il doit y avoir l'eau, il doit y avoir le sang et il doit y avoir l'esprit. Parce que quand le sang et l'eau sont ensemble, qu'est-ce qu'il dit ? Et c'est l'esprit qui rend témoignage aussi parce que l'esprit est vérité. Si le sang et l'eau sont ensemble, si la purification et l'œuvre de la croix sont interconnectées, si le chrétien croit en Jésus et vit le renouvellement de l'intelligence, vit la transformation qu'il est appelé à vivre, alors il vit le Saint-Esprit. Et on ne peut pas les dissocier. Et comprenez là où je veux en venir. Parce que par moments, on peut même faire des raccourcis et dire « Ah, vive le Saint-Esprit !» Et on ne vit que le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas vivre le Saint-Esprit si on ne vit pas la sanctification et si on ne vit pas la croix. Et par moments, même spirituellement, on veut faire des raccourcis. Oh, on veut vivre la gloire de Dieu. On veut vivre la tente d'assignation. On veut vivre le Saint des Saints. Mais si tu ne passes pas par la croix, si tu ne passes pas par la cuve des reins, tu ne pourras pas vivre l'Esprit. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume avec un chemin tracé. Je n'ai plus à sacrifier quoi que ce soit parce que Jésus est mon sacrifice. Mais vous savez, ça ne doit pas nous empêcher par moment de retourner à la croix, au contraire. Et au plus souvent on y va, au mieux c'est. Mais mes frères et sœurs, ça n'a pas de sens de vivre la croix si tu ne vis pas la cuve des reins derrière. Ou toi, sacrificateur, purifié certes par le sang de Jésus, tu dois laisser dans la cuve des reins ta culpabilité. Tu dois laisser ton péché passer, tu dois laisser ta mauvaise nature, tu dois laisser tout ce qui peut entraver, parce que tu peux vivre la croix, mais si tu fais un chant et que tu vas directement dans le temple, pour les sacrificateurs, ils mouraient. Pour nous, je vais appeler ça une stérilité spirituelle. Tu vis la croix, tu vis la cuve des reins et tu peux rentrer dans le Saint et vivre l'Esprit. On ne peut pas les déconnecter les uns des autres et on ne peut pas faire abstraction des uns des autres. Alors je te pose une question, mon frère, ma sœur, ce matin, cet après-midi. Y a-t-il l'eau ? Y a-t-il le sang ? Et y a-t-il l'esprit dans ta vie ? Je pourrais parler de bien des choses parce que, et vous comprenez le sens profond, j'en dis, celui qui croit à ce témoignage en lui-même. À un moment, il y a pas mal de temps, j'ai eu une discussion avec un jeune qui me disait « Mais pourquoi je dois me faire baptiser ?» Parce qu'il va te manquer l'eau, mon ami. Et si ce témoignage n'y est pas, il te manque quelque chose parce que l'eau ne peut pas aller sans le sang. C'est marqué. Et le sang ne peut pas aller sans l'eau. Et dans nos vies spirituelles, en ce début d'année, aussi grande que puissent être nos attentes de vivre certaines choses avec Dieu, de vivre le ciel ouvert, de vivre le Saint des Saints, de vivre la gloire de Dieu dans ce lieu. L'une des premières marches spirituelles qui nous attend, c'est l'autel des sacrifices. C'est la croix, c'est là où Jésus a donné sa vie et où son sang a été répandu. La deuxième marche qui nous attend, c'est la cuve des reins.
où à un moment donné, tu peux vivre la croix, mais doit se joindre à la croix, cette œuvre. En anglais, j'aime bien le mot qui est employé parce que vous avez la traduction en français qui était... Mais le mot en anglais, c'est « laver », c'est « lavoir », c'est là où on se lavait la cuve des reins. Et je voudrais t'encourager à aller à la croix, certes, après la Sainte-Seine, génial. Mais pour vivre l'esprit, dans tout ce que Dieu veut nous amener à la vivre, passe par le lavoir. Et peut-être en a besoin parce que l'été est passé par là. Je sais que des fois, l'été, c'est jamais propice à se rapprocher de Dieu. Je prie pour que ça change. Vous savez, une chose que j'ai constatée, et j'ai fait plusieurs églises, c'est que la plupart du temps, l'été est propice à s'éloigner de Dieu de façon drastique. Et combien de couples on a récupéré à la petite cuillère, combien de situations on récupère parce que l'été est passé par là. Je dépose sur votre cœur la nécessité. Oui, je reviens à la croix. Mais Seigneur, il y a la cuve des reins qui m'attend. Et comme les sacrificateurs l'auront fait, Seigneur, une fois lavé, je veux m'approcher du Saint des Saints. Et je veux vivre la nuée sur ma vie. Seigneur, on veut vivre une année extraordinaire en toi. Mais, mon Dieu, on ne veut pas de court-circuit. Et d'ailleurs, ça ne marchera pas avec toi. Mais on veut cheminer le chemin du sacrificateur. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Nous voulons vivre le sang, l'eau et l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons devant toi cet après-midi tel que nous sommes. Et Nicolas l'a très bien dit, et Pasteur Christian aussi l'a très bien dit. Mon Dieu, nous avons besoin de venir à toi. Non pas par des chemins détournés, non pas par des chemins faits d'hommes, non pas par des théories ou des réflexions humaines. Et comme Jean le dit, tu as fait de nous des sacrificateurs. Et tu as mis en nous les témoins qui affirment le salut, notre identité. Seigneur, nous voulons continuer encore cette année à vivre, et jamais s'enlacer d'ailleurs, à vivre le sang, l'eau et l'esprit. Seigneur, que ces témoins soient présents dans nos vies. Que la croix soit toujours présente. Et que de la croix, de ce côté percé, est sorti le sang, mais il est sorti aussi l'eau qui purifie, tu es notre cuve des reins, Seigneur. Parce que tu as vaincu la puissance du péché, tu nous as pardonné, tu as effacé l'ardoise, mais tu as mis en nous les germes d'une nouvelle créature, d'une nouvelle personne. Et Seigneur, quand nous plongeons nos mains dans la cuve des reins, ce n'est plus notre visage que nous voyons, Seigneur, ce n'est plus notre ancienne nature que nous voyons, mais c'est toi, Jésus, que nous voyons. Et c'est toi, Jésus, que nous voulons voir. Nous voulons aspirer toujours plus à la sanctification parce que lorsqu'il y a le sang, lorsqu'il y a l'eau, alors l'Esprit est là et confirme. Et Seigneur, nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints parce que le voile a été déchiré et que là, dans ta sainte présence, nous pouvons vivre ta gloire. Et Seigneur, cette année, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans ce lieu. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit manifestée. Nous voulons vivre l'Esprit. Mais jamais sans le sang. Et jamais sans l'eau. Seigneur, mets en nous les bonnes dispositions pour vivre ta gloire, mon Dieu. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et amen. Que Dieu vous bénisse, souhaite une belle fin d'après-midi et je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et n'oubliez pas, dimanche prochain,
c'est à 9h30 et plus à 9h. Et puis pour vous, les cultes, en fonction d'où vous êtes, si vous êtes sur Déjazé ou si vous êtes ici, souvenez-vous qu'on reprend nos horaires habituels. Que Dieu vous bénisse.